Donc, bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de ce pré-ac de l'avoir organisé. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente que globalement cette démarche existe. Je la trouve extrêmement riche et importante. Donc moi, je m'appelle Flore Vigné. J'ai aussi plusieurs vies. Sur un temps plus court que celui de Pierre-Antoine, mais quand même. J'ai mené un travail de thèse en géographie entre 2017 et 2021. C'est un travail de thèse que j'ai mené en CIFRE pour Convention industrielle de formation par la recherche, une forme de thèse par alternance que j'ai faite auprès du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Mon directeur de thèse était Pierre-Antoine Landel et ma directrice Marie-Christine Fourny au laboratoire PACT à Grenoble. J'ai travaillé sur un terme qui peut vous paraître un peu barbare, mais qui est la patrimonialisation transformative. Vous l'avez probablement jamais entendu pour la simple et bonne raison que je l'ai inventé. On aime bien inventer des mots en géographie. La patrimonialisation transformative, c'était un moyen court en deux mots de dire quelque chose qui aurait pris quelques phrases pour le dire autrement. Puisque je voulais parler donc de la patrimonialisation, donc de parler du patrimoine comme un processus mis en œuvre par des acteurs. J'avais vraiment ce besoin de voir le patrimoine comme un construit. On a des héritages qui nous viennent du passé et on a le patrimoine qui est inclus dans un projet aujourd'hui. Et la question de la transformation, c'est l'idée d'avoir non seulement une transformation au cours de la patrimonialisation, il y en a souvent dans les reconversions par exemple, mais de se dire que cette transformation, elle est là dès le départ. C'est une intention du groupe qui patrimonialise. Et cette intention, elle est de transformer des relations sociales et des modes d'habiter. Donc j'ai travaillé là-dessus, sur la question des héritages industriels en Monts d'Ardèche. Donc déjà, la CIFRE me posait un peu en intermédiaire entre le monde de la recherche et le monde de l'action publique. Et depuis septembre 2021, je suis chargée de mission action culturelle et territoriale, patrimoine culturel au département de l'Ardèche. Et en dehors de mes missions vraiment patrimoine, je suis en charge de la coordination des conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle, les CTEAC, qui sont conclues entre des EPCI, l'État, la région, le département et souvent aussi d'autres acteurs comme le réseau Canopée ou la CAF. En Ardèche, on a une politique particulièrement dynamique autour de ces CTEAC qui fait qu'on a 11 territoires aujourd'hui sur les 18 qui comptent l'Ardèche, qui sont partis dans ce processus de CTEAC. Et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous aussi ce retour pratique, en fait, finalement. Est-ce que ces questions de transformation peuvent s'appliquer à l'action culturelle? Notamment, j'avais envie de l'illustrer à travers deux axes, la question des projets EAC, donc d'éducation artistique et culturelle, et la question des projets culturels de territoire. Donc je vais faire ça en deux temps. Je vais vous parler d'abord de mon travail de thèse, et ensuite je vais vous parler de ces interrogations que je voulais vous apporter aujourd'hui sur les actions culturelles et la transformation. Dans mon travail de thèse, j'ai fait un inventaire de 700 sites industriels ardéchois sur le parc des Monts d'Ardèche et les Comcom qui lui sont adhérentes. Et j'ai après plus particulièrement ciblé trois études de cas de patrimoine qui me semblaient avoir ces caractéristiques d'intention de transformation. Il y a le Moulinon, donc vous voyez, on se situe en centre Ardèche, dans la vallée de l'Eyrieux, sur la commune de Saint-Sauveur-de-Montagut. Le moulinage de Chirol, qui lui se situe à Chirol, on n'est pas très loin de Vals-les-Bains. Et la nouvelle manufacture, qui elle est à Saint-Martin-de-Valamas, on est presque sur le plateau ardéchois du côté de Saint-Agrève. Au Moulinon, on est, pour vous situer un peu, sur un village de 1000 habitants à peu près, que j'ai caractérisé dans ma thèse comme un village industriel, c'est-à-dire qui s'est urbanisé largement lié à l'implantation d'usines. Il y a 14 sites industriels sur ce village-là. Et au début du XXe siècle, vous voyez, la population ouvrière correspondait à entre la moitié et un tiers de la population locale, sachant qu'autour d'eux, les commerces, etc., étaient installés pour la vie de ces ouvriers. Par ailleurs, il y a une forte identité autour de la culture du pêcher à Saint-Sauveur-de-Montagu, qui avait, dans la vallée de l'Arieux, globalement, il y avait une culture de la pêche qui était particulièrement florissante. Ah, pardon. Je vais vous parler donc spécifiquement du Moulinon. Le Moulinon, c'est le point 13 sur la carte. Vous voyez, il est un peu à l'écart du centre-bourg. Il s'implante donc au début du 19e siècle. C'est un moulinage. Donc les moulinages, pour ceux qui sont pas ardéchois, c'est des usines de torsion du fil de soie. Elles viennent juste après la filature, donc le dévidage des cocons, et avant l'opération de tissage. On a besoin de tordre ce fil pour que les brins de soie tiennent ensemble. Donc, il s'installe sur une prise d'eau qui alimentait déjà un moulin, enfin deux prises d'eau même qui alimentaient un moulin. Et il s'agrandit très largement au fur et à mesure du 19e siècle, avec finalement un bâti qui finit par être assez imposant dans le fond de vallée et qui occupe au début du 20e siècle 150 ouvriers. Petit à petit, on passe à une filature plus textile artificiel. Et à ce moment-là, on diminue progressivement le nombre d'ouvriers impliqués. On a une vingtaine d'ouvriers dans les années 90. Et quand le Moulinon ferme en 2000, il licencie une dizaine de personnes. Donc on est au stade de la friche. Les machines sont vendues. Par ailleurs, du coup, d'autres usines ferment sur ce même village, licenciant plutôt une centaine de personnes. Donc on est sur une espèce de fin de cycle, d'autant que les pêchers aussi ont migré vers la vallée du Rhône. Donc on a vraiment une atmosphère assez délétère avec voilà, des questionnements du type « y a-t-il une vie après l'industrie et les pêches ?» Et il y a une vie. En parallèle de ça, sur la commune voisine de Saint-Étienne-de-Serres, il y a une petite entreprise qui se monte qui s'appelle Terra Delis. Certains d'entre vous ont dû manger leur glace. C'est une toute petite entreprise au début qui s'installe dans une ferme. Elle se fait connaître notamment par sa glace au fromage de chèvre, puisque la ferme dans laquelle elle est installée en produit. Puis ils grossissent et ils ont besoin d'un nouvel espace. Donc le Moulinon à Saint-Sauveur-de-Montagu paraît un espace intéressant pour s'installer. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls, donc ils font appel à la communauté de communes qui va accepter d'acheter le bâtiment, de mener les travaux et de le louer à l'entreprise et d'y mettre aussi, vous le voyez, des espaces de bureaux, une école de musique, puis progressivement d'augmenter l'espace consacré à l'entreprise avec notamment en 2021 l'installation d'un salon glacier au sein de l'usine. En parallèle de ça, évidemment, se montent des patrimonialisations. Pendant la reconversion, les élus commencent à faire des recherches pour alimenter des visites guidées qui auront lieu au moment de l'inauguration. Il y a un certain nombre de travaux artistiques qui se mettent en place. Donc, vous avez deux exemples, le travail photographique de Valla de Bianchi en 2010 et puis une œuvre in situ qui s'appelle « Vous me direz », qui est ce bâtiment bleu qui donne un point de vue sur le Moulinon et qui aussi a un dispositif audio qui raconte l'histoire et la mémoire ouvrière avec tout un dispositif qui permet aussi d'entendre les bruits des machines. L'inventaire, le service régional de l'inventaire repère ce site en 2016 avec les travaux de Nadine Alitim-Dubois et elle note que c'est un site qui mériterait une protection monument historique, protection qui n'arrivera pas. Terra Delis se structure de plus en plus de manière la manière d'une entreprise responsable. Elle travaille avec un réseau de partenaires locaux. Elle passe en 100% bio dans sa production. Elle a une approche environnementale sur sa production de l'énergie et elle cherche aussi une gouvernance horizontale au sein de son entreprise. Enfin, elle cherche aussi une approche culturelle avec l'espace du nouveau glacier, notamment, qui est un espace aussi d'interprétation et où se situe aussi une petite scène où ils projettent de faire des concerts, des projections cinéma. Il y en a quelques-unes qui ont déjà eu lieu aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait dans ma thèse, c'était de voir les entremêlements de tout ça. Il y avait vraiment l'idée pour l'entreprise de faire corps avec le bâtiment. Je vous ai mis quelques verbatims. En fait, le bâtiment sert de cadre à la croissance, ou plutôt la maîtrise de la croissance de l'entreprise. Il y a aussi une certaine fusion identitaire qui se constitue avec des clients, du glacier qui viennent aussi parce que c'est là que leurs grands-parents avaient travaillé, parce que ce site a une symbolique pour eux de pouvoir continuer à vivre et travailler au pays, si vous me permettez l'expression. Et donc, dans ce nouvel espace de médiation, on parle à la fois de l'histoire de l'entreprise, mais aussi de l'histoire du bâti. Et du coup, on a aussi cet entremêlement qui se constitue. Je passe au moulinage de Chirol. J'essaye d'aller vite, je suis désolée. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser. Chirol, on est sur un village beaucoup plus petit, qui a compté 4 sites industriels, tous des moulinages, qui ensuite sont passés en production hydroélectrique. Le village est perché sur la montagne et le site de Pont-de-Verrières dont je vais vous parler se situe vraiment en bas, en contrebas, au niveau de la route départementale. On est dans une installation qui date à peu près de la même période. On est toujours sur un moulinage. Et toujours sur un moulinage qui grossit jusqu'à devenir presque un quartier, en fait, même complètement un quartier, et qui finit par avoir une population plus importante que le centre-village. Quand j'ai interrogé le maire sur quelle était la place du moulinage, de ce moulinage dans son village, il m'a dit « Mais Chirol, c'est le moulinage ». De la même façon, on est sur un moulinage qui va connaître un certain nombre de difficultés à partir des années 70-80 et qui ferme au début des années 2000. Là aussi, les machines sont vendues puisque ce sont des machines assez modernes. Il y a le propriétaire qui essaye de mettre en place un certain nombre de projets mais qui ne voit pas le jour et qui du coup loue un peu à des artisans mais de manière très ponctuelle et pas très coordonnée. En 2015, il y a une association qui se crée, qui s'appelle le collectif du moulinage de Chirol. Et cette association commence à rêver de s'installer sur ce site, de l'habiter. En 2019, il y a un achat du moulinage. Donc vous voyez déjà, ils ont tenu 4 ans sans avoir accès au lieu sur lequel ils voulaient s'installer. Et tout de suite, les premiers habitants arrivent en caravane, en habitat léger. Ils s'installent et ils investissent le chantier. Il y avait des salles, du coup, où il y avait des tentes réparties un peu partout parce que le but était vraiment d'occuper le lieu, de le vivre et en cela, de le modifier petit à petit. En parallèle, il faut que je vous parle quand même d'un autre occupant de ce site qui est l'association ASECO, qui est l'association pour la création de l'écomusée du moulinage, qui est créée dans les années 80, complètement refondue dans les années 2000 avec l'aide du PNR, et qui a vraiment, avec un grand dynamisme, déjà essayé de faire vivre cette partie-là du bâti, avec des concerts, avec des visites et avec des partenariats aussi locaux. Mais aujourd'hui, c'est une association qui s'essouffle un peu, même beaucoup, parce que les présidents et le bureau sont assez âgés et ils ont des difficultés à se saisir des opportunités qui peuvent être relais. Et la Comcom elle-même, qui pourrait reprendre le site avec l'Office de tourisme, voit moyennement l'opportunité que ça peut être et du coup n'y met pas une énergie folle. Donc le collectif, je vous parle un peu de leur projet, donc c'est un montage hybride avec une association et une coopérative, la coopérative pour l'achat du lieu en SCIC et l'association pour tout ce qui est projet culturel notamment. C'est un lieu qui est hybride. Aujourd'hui, il compte des logements, un certain nombre d'activités artisanales. On a une menuiserie, on a des potiers, on a beaucoup d'autres petits artisans. Un espace de coworking, une salle de spectacle et petit à petit, le collectif réhabilite et aménage la suite du lieu. On est dans l'idéologie des communs avec un projet qui a une forte dimension écologique. Et là encore, il y a des entremêlements qui arrivent entre le projet d'innovation sociale et la patrimonialisation, avec une collecte de mémoire qui va bientôt se terminer. Elle est encore en cours, mais elle va bientôt se terminer, notamment à travers une mise en valeur avec une émission de radio, un projet CTEAC aussi qui s'est construit, et d'ailleurs un projet aussi qui a obtenu des fonds via Mémoire 20e-21e, l'appel à projet de RAC Région. Et donc cette histoire, elle fait aussi partie des communs. Finalement, le fait que ce quartier se soit constitué comme quartier, ça demande aussi, c'est une espèce de dette que le collectif semble avoir avec la collectivité. C'est-à-dire qu'ils veulent l'ouvrir au public, ils veulent que ça soit un lieu qui continue à faire partie de la vie du village. Avec bon, du coup, des interrogations sur la gestion du musée qui perdurent encore aujourd'hui. Le collectif, à un moment, voulait s'y engager, mais ils ont déjà tellement de projets que c'est compliqué de tout mener de front. Donc la gestion du musée est encore en suspens aujourd'hui. Et je passe sur mon dernier exemple, qui est celui de la nouvelle manufacture à Saint-Martin de Valamas. On est à nouveau sur un village industriel d'environ 1000 habitants. On est à nouveau, du coup, voilà, avec 13 sites qui ont occupé le territoire. On est sur deux types d'industries principalement, l'industrie textile et l'industrie du bijou, qui est une particularité de cette haute vallée de l'Eyrieux. On est sur une usine qui est un peu plus tardive. L'industrie du bijou, elle s'installe à Saint-Martin-de-Valamas en 1868, mais l'usine dont je parle, l'usine du Garail, c'est une installation qui date plutôt de 1917. Il y a un agrandissement, pareil, au cours du XXe siècle pour les raisons de la production, et un déménagement de l'entreprise qui existe toujours, mais n'est plus dans ses locaux. En 1991, il s'installe dans des locaux beaucoup plus neufs, voyez, de type zone industrielle. Et l'usine reste en friche pendant 15 ans. Elle est rachetée par la commune, mais la commune a à un moment un projet d'en faire une chambre funéraire, mais ça aboutit pas. Enfin voilà, on reste sur des choses un peu en suspens. En 2014, il y a un couple d'artistes qui cherchent un atelier et qui tombent amoureux du lieu. Et du coup, ils l'achètent, mais ils le mettent en gestion associative et ils en font un lieu à nouveau ouvert, avec l'idée de monter une galerie d'art. Puis, en 2018, d'y ajouter un café culturel, parce que promouvoir l'art contemporain en milieu rural, ça demandait d'avoir peut-être un espèce de sas de décompression. Et donc, ce café culturel servait un peu de cet espace-là. En parallèle de ça, la communauté de communes, les communautés de communes successives, parce qu'il y a des fusions, portent un projet qui s'appelle Vallée du Bijou, avec à nouveau un projet artistique qui s'appelle Ses Mains, qui est l'installation que vous voyez ici. Si vous devez prendre ma vie, laissez-moi les mains. C'était ce qu'il y avait à l'extérieur du bâtiment. Et à l'intérieur, on avait cette installation avec les outils de travail du bijou, qui est désinstallé depuis dans le cadre de la reconversion de l'atelier du bijou, qui est le bâtiment que vous voyez ici, qui ouvre en 2018 et qui occupe, qui a à la fois une pépinière d'artisans et un espace muséographique. Le projet de la nouvelle manufacture, je vous disais, il s'étoffe petit à petit avec vraiment l'idée d'être assez iconoclaste sur le type d'art contemporain qui est proposé. Ils utilisent beaucoup l'ancienne identité de l'usine. Là, vous voyez la tireuse à bière du café culturel. C'est une ancienne machine à bijoux. Le logo de la nouvelle manufacture est les anciennes initiales de Marius Legros, ML, qui est devenu la nouvelle manufacture avec un N à poser dessus. Et le café culturel joue vraiment un grand rôle de vecteur social. Et là aussi, on retrouve les entremêlements dont je vous parlais. Donc, il y a effectivement les détournements des objets, l'importance de l'histoire et de la mémoire pour les personnes moteurs sur l'association. Et en fond, une critique forte du capitalisme avec l'idée que les usines à bijoux sont venues s'installer dans ces espaces ruraux parce qu'il y avait de la main-d'œuvre à exploiter. Et du coup, on a vraiment un discours très fort de l'art comme reprise de pouvoir, empowerment vraiment des individus. Voilà pour les exemples de patrimonialisation transformative. Je vais aller, j'espère, plus vite sur la fin. Je suis désolée, je suis un peu longue. Là, vraiment, l'idée, c'est de vous partager une interrogation de est-ce que l'action culturelle, elle peut être transformative ? Évidemment, l'action culturelle transforme, comme le patrimoine transforme. De fait, il y a des transformations qui sont générées par l'action culturelle. Mais la question ici, c'est vraiment de savoir s'il y a une intention de transformation dans les actions culturelles qui peuvent être menées aujourd'hui. Moi, je pense que si l'action culturelle a pour objectif l'émancipation des individus, ce qui est le cas dans une perspective, donc encore une fois, d'empowerment, de capacitation, où on dit aussi d'autonomisation des individus, on est dans une perspective de d'une lecture des droits culturels. Droits culturels, je vous donne la définition de la déclaration de Fribourg, c'est l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Et par ailleurs, du coup, on pourrait parler aussi en parallèle des droits culturels, de droit au patrimoine, qui est plutôt développé par une chercheure qui s'appelle Lucie K. Morisset, qui est à l'Université de Montréal et qui le définit comme le droit pour chacun de disposer d'un passé objectivé et localisé en reprenant une définition de Daniel Fabre. Donc, l'action culturelle peut être transformative si elle va dans le sens des droits culturels. C'est un peu le postulat de départ, l'hypothèse que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et comment, du coup, dans cette perspective, ça vient interroger la manière dont on construit l'action culturelle, notamment à travers deux types de dispositifs. Le premier, c'est l'éducation artistique et culturelle, avec l'interrogation, du coup, de ces trois piliers de l'éducation artistique et culturelle, et comment est-ce qu'elle vient interroger aussi des projets culturels de territoire, puisque c'est quelque chose d'extrêmement à la mode aussi. Il y a la moitié des EPCI qui ont déclaré que c'était un objectif de leur mandat de faire un projet culturel de territoire. Comment ça vient se frotter à tout ça? Petite mise en contexte, je m'inspire pour vous parler de tout ça, de mon travail actuel et donc de ce travail avec les 11 EPCI portant une CTEAC, mais aussi avec 5 EPCI Ardéchois qui se sont lancés dans une dynamique qui s'appelle VPCT, vers un projet culturel de territoire, qui est une dynamique qui est notamment portée par une formation action menée par la DRAC et l'Observatoire des politiques culturelles. Je regarde Françoise Delomier-Rollin parce qu'on était à la première session ensemble il y a quelques mois. Je vais aussi m'inspirer potentiellement de l'instruction des dossiers à tout collège. Alors, à tout collège, c'est le dispositif Ardéchois de financement des projets éducatifs des collèges qui aussi repose sur les piliers de l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est pour l'instant vraiment des observations éparses. Je veux pas que vous preniez ça comme un truc hyper surplombant et définitif. C'est des observations qui visent à proposer des hypothèses et éventuellement des problématiques que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc les trois piliers de l'EAC, il y a évidemment donc la question de la rencontre de l'artiste, la rencontre de l'œuvre, la question de la pratique et la question de l'appropriation. Alors oui, j'ai choisi appropriation, des fois on dit connaissance, des fois on dit critique, aussi dans l'idée de l'esprit critique. Moi j'aime bien appropriation. Comment est-ce que se placer dans une intention de transformation transforme, modifie, influence l'utilisation de ces trois piliers? Je vais me passer dans la perspective d'un projet EAC qui mobiliserait le patrimoine, parce que vous avez compris, c'est un peu mon dada. Sur la question de la rencontre, dans le patrimoine, on rencontre assez rarement des artistes, dans le sens où souvent les artistes qui ont mené à la création de l'héritage qu'on étudie sont morts. Je vais plutôt parler de la rencontre avec une œuvre. Alors, ça peut être une œuvre qui est déjà très connue, très valorisée, dans le cadre d'un musée, d'un espace de médiation. Et il me semble que dans ce cas-là, on se situe plus dans une perspective de démocratisation culturelle. On vient porter à connaissance quelque chose qui est déjà très établi, très constitué. Quand on se dirige vers un patrimoine local, je prends l'exemple des enfants du patrimoine, qui est porté par les CAUE, qui vise plutôt effectivement la découverte de l'environnement immédiat des élèves. Dans ces cas-là, on se dirige, il me semble, plutôt vers une perspective effectivement de droit culturel, de l'appropriation ou pas d'un héritage autour de nous qui peut être mis en patrimoine, encore une fois, ou pas. Comme le créateur est absent, on va choisir un acteur culturel, alors évidemment reconnu par l'État, puisqu'on est dans le cadre d'un dispositif d'État, qui va proposer d'échanger avec un professionnel du patrimoine. Et la liste des professionnels du patrimoine, vous le voyez, est très longue. Et j'ai mis en gras les disciplines qui, il me semble, proposent le plus souvent une lecture du patrimoine comme un construit social, une lecture du coup de ce processus de patrimonialisation. Alors évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, j'y ai mis les géographes, mais ça peut être effectivement des sociologues, des philosophes, des cartographes. On a un chouette projet EAC en Ardèche qui se monte autour de la cartographie sensible et qui vient interroger effectivement cette dynamique de construction. Et puis, je trouve ça intéressant pour reprendre peut-être le propos introductif de Philippe Grandvoinet, qui disait qu'il ne faut pas craindre le léger flou créé par la superposition des regards. Je pense que c'est pareil pour l'éducation artistique et culturelle. La mise en dialogue avec un regard artistique, quelle que soit la discipline qui le produit, ou de regards habitants. Je trouve ça intéressant aussi, la mise en parallèle de regards d'associations locales, de collectifs locaux, d'individus passionnés de patrimoine. Pourquoi est-ce que finalement ce croisement de regards permet d'interroger la construction du patrimoine ? La question de la pratique du patrimoine ne peut pas, à mon sens, se limiter par la question de la visite. C'est souvent la première chose qu'on fait quand on monte un projet éducatif, c'est on dit on va aller visiter quelque chose. Pour contrer ça et pour alimenter ce pilier, il y a souvent des ateliers qui sont proposés, qui sont des ateliers qui mettent en avant des professionnels de l'art ou de l'artisanat. Donc on va par exemple essayer de reproduire les techniques qui ont mené à la construction d'un vitrail, à la construction d'une église, etc. Ou de l'archéologie, par exemple, des professionnels du coup qui font explorer leur expertise. Comment est-ce qu'on construit un savoir sur le passé? Il me semble que dans une perspective de droit culturel, et ça serait intéressant d'ajouter à ces projets la question de la pratique du processus de patrimonialisation, mettre les élèves dans le faire, avec l'idée de comment est-ce qu'on s'approprie un patrimoine, donc avec des expériences sensibles, avec des expériences plus scientifiques, et comment finalement aussi est-ce qu'on transmet. Et c'est une question qui est extrêmement intéressante parce qu'elle pose la question de comment on se tourne vers l'avenir aussi. Qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut apporter à demain. Et il me semble que le troisième pilier prend une importance capitale quand on parle de droit culturel. Parce que finalement, c'est bien ça qui importe, c'est de savoir, dans tout ce qu'on va présenter à ses élèves, à ses bénéficiaires, pour parler à un sens plus large, comment finalement est-ce que, non seulement ils montent en connaissance, comment est-ce qu'ils découvrent de plus en plus les héritages et les patrimoines qui les entourent, mais aussi, comment est-ce qu'ils prennent du recul sur tout ça? Comment est-ce qu'ils décident qu'est-ce qui est leur et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et pour moi, du coup, l'idée de comprendre le patrimoine comme un objet social et comprendre que chacun a sa forme de patrimonialisation et a une sensibilité particulière sur un certain nombre de patrimoines est importante. Je finis rapidement, je suis désolée, j'ai complètement dépassé mon temps, sur la question du projet culturel de territoire. Le projet culturel de territoire, il peut être défini par plusieurs aspects. Vous lisez la définition ici de Négrier et Poutier. Il est collectif, il est cadré dans un document spécifique, il est sur un espace donné, il est territorialisé. Et il met en jeu des dynamiques de développement culturel et territorial. Poser la question de la transformation, est-ce qu'un projet culturel de territoire peut être transformatif, c'est poser la question de son objectif. Vers quel commun ? Vers quel bien commun territorial en perspective il se dirige. Actuellement, avec tous les discours qu'on connaît de la transition écologique, de la transition démocratique, de la transition numérique, on pourrait penser que ces territoires intègrent ces objectifs directement dans l'horizon de leur projet. Mais à l'observation, ce n'est pas si évident que ça. D'abord parce que les territoires ils sont encore empêtrés dans d'autres problématiques qu'ils jugent très importantes. Par exemple, la question de la déprise démographique encore de certains territoires ruraux. Et puis, parce que le portage politique sur ces sujets, parce que ces sujets sont devenus très politiques aussi, ce ne sont pas que des constats scientifiques, et pas toujours évidentes. Et quand on veut mettre la transition comme horizon de son projet culturel de territoire, on se heurte quand même à quelque chose qui est le fonctionnement en silo, le fonctionnement en silo des collectivités territoriales, mais aussi le fonctionnement en silo de nos institutions qui séparent la culture, le patrimoine, l'architecture, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le paysage. Donc, j'ai essayé comme ça, je vous lance ça, de savoir qu'est-ce que serait un projet culturel de territoire transformatif. Je pense que ça veut dire déjà de laisser une grande place à la question du processus, que le but en soi ne soit pas clairement défini, atteint, mesuré, avec des étapes. Ce n'est pas forcément un problème. Il y a un cheminement avec un déroulé qui n'est pas strict. On peut faire un diagnostic de territoire d'abord et puis ensuite aller faire de l'intersectionnalité avec les autres services de notre PCI et puis revenir avec les habitants. On peut faire ça dans n'importe quel ordre, entre guillemets. Ce projet culturel de territoire, il serait mis en œuvre par des acteurs et ces acteurs, je crois qu'ils doivent inclure largement les habitants. Avec non seulement considérés comme des partenaires à part entière, mais aussi avec un pouvoir décisionnaire. Et ça, c'est pas si facile à mettre en place, à mon avis, sur un certain nombre de territoires. Et je pense qu'ils doivent quand même lier la reconnaissance des héritages, donc effectivement, qu'ils doivent faire prendre en compte ce passé. Alors, pas forcément tout ce passé, mais qu'ils doivent en tout cas réfléchir effectivement à qu'est-ce qui est leur aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils veulent transmettre. Et enfin, évidemment, il y a cette ligne de mire de l'intention de transformation des relations sociales et des modes d'habiter, de l'habitabilité, on pourrait dire. Donc, ces trois transitions écologiques, démocratiques, numériques, et tout ça se fait évidemment en intersectorialité, en transsectorialité, avec tous les services de l'EPCI. Et tout ça doit être évidemment lié par un récit. Et c'est peut-être le plus grand défi qu'il existe aujourd'hui, c'est de trouver quel récit on construit, comment on raconte effectivement un projet culturel de territoire. Et je vous remercie.